Vous êtes devant la Munttoren, autrement dit la tour de la monnaie. Lorsque la ville d'Amsterdam a décidé de se protéger en bâtissant une muraille le long de son pourtour et des citadelles protégeant les quelques points d'entrée et de sortie de la cité, une forteresse a été construite entre 1480 et 1487, ici, là, même où vous vous trouvez. Le bâtiment possédait sur chaque côté une tour. Mais à partir de 1585, Amsterdam cherche à s'étendre et commence à sortir de ses limites. La forteresse perd ainsi sa fonction protectrice et le rempart est démoli. On y installe une soufflerie de verre et une salle de garde. En 1618, un incendie détruit une partie de l'édifice, mais la salle de garde est épargnée. On décide de ne sauver et restaurer qu'une seule tour, celle devant vous. L'architecte Hendrik de Keyser, réalisateur entre autres des quatre églises protestantes de la ville, va se charger de faire le travail en la dotant d'un étage supérieur comprenant 8 arêtes, 4 cadrans d'horloge et un carillon. L'année 1672 est considérée dans l'histoire des Pays-Bas comme l'année de toutes les catastrophes. Utrecht est tombée aux mains des troupes de Louis XIV. Or, c'est à Utrecht qu'Amsterdam fait battre sa monnaie. Amsterdam possède suffisamment d'argent, nous parlons du métal lui-même, mais n'a pas jusqu'à présent un lieu où en faire des pièces. Contraint par les événements, Amsterdam décide alors d'aménager au sein de cette tour une machine à frapper la monnaie. De plus, le danger français est toujours présent, car on pense que les soldats de Louis XIV vont attaquer la ville en utilisant la voie des eaux. Finalement, Amsterdam ne sera pas envahi par les Français, ceux-ci orientant leur offensive vers le sud du pays. Par conséquent, en octobre 1673, on cesse d'y frapper la monnaie. En fait, elle n'aura servi que pendant un an à alimenter la ville en pièces. Mais elle gardera son nom vraisemblablement jusqu'à la fin des temps. Ceci dit, on a tenté deux fois de la réutiliser, fabrication d'espèces sonnantes et trébuchantes, mais à chaque fois, le projet a avorté. Louis-Napoléon, en 1806, voulait concentrer toutes les frappes de monnaie à Amsterdam. Et en 1839, on a voulu remplacer la monnaie d'Utrecht par celle d'Amsterdam, mais rien n'y a fait. À votre droite se tient l'Hôtel de l'Europe. C'est un hôtel 5 étoiles, ouvert en 1896. Ses fondations sont soutenues par près de 640 pylônes plantés dans le sol. Le style d'architecture s'apparente à la Renaissance. Le bar de l'hôtel, classé comme le meilleur de la ville, s'appelle Freddy's Bar, en l'honneur et en souvenir de Alfred Heineken, fondateur de la brasserie du même nom. De son vivant, il aimait beaucoup se rendre à l'Hôtel de l'Europe. En 1940, Alfred Hitchcock y a réalisé des scènes de son film Foreign Correspondent. Et pendant l'occupation, les officiers de l'armée allemande y logeaient également. Sur votre gauche, vous pouvez voir le marché aux fleurs. Toutes les boutiques sont sur l'eau. Ce marché a été créé en 1862 et à cette époque, toutes les fleurs et plantes étaient cultivées en dehors de la ville et étaient quotidiennement amenées par bateau. Ce qui explique l'idée de placer toutes les boutiques sur des embarcations afin de perpétrer le souvenir des débuts du marché. Vous pouvez bien sûr y faire une petite visite, mais ce n'est pas le seul endroit où vous pouvez acheter des bulbes de qualité. Si vous êtes venu en avion, l'aéroport, un magasin dans lequel vous pouvez vous approvisionner, par exemple. Ou chez un fleuriste. Prenez maintenant la rue, tout de suite sur votre droite, qui longe le canal, et marchez jusqu'au numéro 467. Vous êtes devant l'entrée d'un magasin, mais derrière cette imposante façade se trouvait une salle de cinéma, le Roxy. Elle a fermé au début des années 80 et restait depuis inutilisée, jusqu'à ce que trois garçons trentenaires décident d'y installer une discothèque qu'ils appelleraient également le Roxy. Elle a ouvert en grande pompe en juillet 1987. Mais contrairement aux attentes, elle a fait pendant près d'un an salle vide, à tel point qu'une faillite se profilait à l'horizon. Et patatrac, une musique totalement nouvelle, venue en direct de Manchester, du nom de Acid House, va non seulement la sauver, mais très vite lui conférer une réputation internationale. L'ironie veut que les trois pères fondateurs étaient allergiques à ce courant musical et pensaient qu'elle passerait comme le café. L'histoire nous apprend qu'elle continue à faire des petits avec toutes ses variantes techno et ses rêves sauvages. Hélas, l'un des trois associés, Pete Hill, qui en était l'architecte intérieur, mourut fin juin 1999. Après ses obsèques, et en son honneur, un hommage lui fut rendu le 21 juin 1999 à l'intérieur de la discothèque. Au programme, les témoignages de proches et d'amis, et également un feu d'artifice. Celui-ci fut déclenché alors que le système de climatisation était encore en marche, ce qui eut pour effet d'aspirer toutes les étincelles et flammèches et de les diriger vers les combles. Et c'est là que l'incendie qui devait ravager tout le bâtiment prit son départ sans que personne ne s'en rende compte. Et au moment où les participants ont compris ce qu'il se passait, il a fallu évacuer les lieux. Dieu merci, aucune victime, mais ce fut la fin d'un lieu légendaire de la vie noctambule d'Amsterdam. La façade a pu être sauvée, et c'est ainsi que le Roxy vous apparaissait avant qu'il vous ouvre sa porte.